savoir le replay. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la ferme du vivant. Donc la thématique, c'est créer des fermes diversifiées et ancrées dans le territoire. Et on va parler effectivement de cette ferme qui est présente en Provence, dans le Var, qui est le beau projet que Max va nous raconter aujourd'hui. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Peut-être avant, je vais demander à chaque intervenant de se présenter, comme ça vous savez qui c'est qui va vous parler aujourd'hui et vous raconter un petit peu cette aventure. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par Max? Toi, tu peux commencer à te présenter.
Bonjour à tous, bienvenue, on va dire, dans la ferme du vivant, dans le projet. Enfin, c'est plus qu'un projet, puisqu'on a démarré l'activité en début d'année 2024. Donc, ce projet est un projet à la fois, on va dire, que j'ai souhaité depuis très longtemps, puisque, étant proche de Pierre Rabhi, j'ai travaillé sur un projet dans la Drôme qui s'appelle les Amanins, que certains connaissent peut-être, un centre agroécologique. L'idée, c'était de monter un centre agroécologique en Provence, où j'habite depuis 35 ans, mais avec une réalité économique avant tout. Moi, j'ai un passé dans le monde des affaires, on va dire. Je suis à la retraite, mais toujours actif. Et donc, on a commencé déjà à créer un premier collectif qui s'appelle le Cochon Noir de Provence, pour développer en agroforesterie avec la FAF, qui est présente avec nous, avec Fabien aujourd'hui. De créer donc des fermes agroforestières ou sylvopastorales, non pas avec du mouton comme on a beaucoup, on n'a rien contre le mouton hein, dans la région, mais avec du cochon noir, parce que derrière, l'idée c'est de valoriser le produit et d'aller jusqu'à l'assiette. Donc dans tous les cas de figure, nous on conçoit une ferme à condition que derrière on soit en agriculture biologique, qu'on soit le plus possible local et qu'on soit en circuit super court. De par mon passé professionnel, j'ai fait du commerce, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la finance. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il faut apporter à l'entrepreneur paysan, aujourd'hui, on est plutôt sur des reconversions pour ce qui concerne notre association, tous ces atouts-là qu'il doit avoir lui-même ou qu'il doit développer avec un certain nombre de partenaires. Donc, cette association cherchait un lieu, donc le Cochon Noir de Provence, pour une ferme expérimentale sur l'agroforesterie, le sylvopastoralisme, en polyculture élevage avec donc du cochon. Et ensuite, suivant la ferme qu'on allait trouver, apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble et également donc à créer d'autres activités si le lieu le permettait. Donc, via la SAFER, on a signé un compromis pour acheter cette propriété qui fait 45 hectares. Il s'avère qu'il y a une grosse bastide qui n'est pas leur vocation de rénover une bastide pour ensuite faire de l'habitat ou de l'agrotourisme, mais elle est là, elle fait partie du prix. Et donc, elle est plus chère d'ailleurs que les terres, dans le sud en particulier, tout le monde le sait, en Provence encore plus peut-être qu'ailleurs, et sur la Côte d'Azur, on a des prix qui frôlent ceux des Parisiens. Derrière, il faut arriver également à trouver une réalité économique pour cette bastide. Donc, derrière tout ça, on a une personne qui s'appelle Gilles, qui fait partie de l'association, qui va manager, gérer l'ensemble de la ferme du vivant. Pour l'acheter, ben, on avait un peu des fonds propres à travers, on va dire, des investisseurs, des amis qui étaient intéressés par l'agroécologie. Notre dénominateur commun, c'est l'agroécologie. Au final, il manquait des sous. Donc, du coup, par le biais du monde de la finance, que je connais un peu beaucoup, on s'est rapproché de Fermenvie, de Fèves, et on a trouvé, enfin, moi je le dis parce que, en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est le partenaire idéal, pour deux raisons. Bon, j'ai fait de la gestion de patrimoine pendant des années. Il y a à la fois la valeur travail qui est apportée par l'outil, donc c'est ce qu'on recherche pour installer donc des personnes sur cette ferme, et à la fois l'aspect patrimonial pour le paysan, parce que Fermenvie propose à terme la possibilité de racheter le foncier. Alors bien sûr, pour acheter un foncier, il faut dégager des capitaux propres, éventuellement compléter avec un prêt auprès d'une banque. Et pour ça, il est indispensable, bien sûr, d'avoir des activités rentables et même qui rapportent de l'argent et qui en laissent, on va dire, en plus de la valeur travail. Voilà. Je parlerai de l'avenir, pardon, et puis du présent et de l'avenir après. Pour l'instant, on est
Oui.
bien.
Super, merci Max pour cette petite introduction. Comme ça, on a balayé un petit peu la création du projet. Du coup, bon, tu parlais de Fèves. Peut-être que, alors, j'ai vu que dans la conversation, il y a certaines personnes qui connaissent déjà et qui ont déjà investi. Mais Simon, est-ce que tu peux faire un rapide rappel de ce que fait Fèves sur les projets comme celui de Max?
Pas de souci. Bonjour à tous. Donc Simon, je suis un des fondateurs de Fèves. C'est moi qui ai accompagné Max sur le projet de La Modèse, la ferme du vivant. Donc Fèves, en fait, c'est une société de l'économie sociale et solidaire qui a une double vocation. Donc à la fois installer des agriculteurs sur des fermes en facilitant tout le processus d'acquisition et les financements des exploitations. Et puis promouvoir les pratiques agroécologiques, accélérer la transition en fait vers l'agroécologie. Et donc, comment on couple les deux en fait? Eh ben, on va sélectionner des porteurs de projets qui ont des projets agroécologiques. On va les aider à trouver une ferme ou évaluer les fermes qu'ils ont trouvées. Et puis, si le projet correspond à nos critères d'évaluation, eh ben, on va financer ces exploitations. Et comme le disait Max, avec une option d'achat. C'est-à-dire qu'une fois que l'agriculteur est installé ou les agriculteurs sont installés sur leur ferme, à tout moment, ils peuvent décider de racheter l'ensemble du foncier que Fèves aura financé. Donc, ce qui est effectivement très intéressant pour beaucoup d'agriculteurs, hein, qui investissent beaucoup de temps sur leur ferme et qui donc, à terme, peuvent vouloir devenir propriétaires de leurs biens. Mais ça n'est pas une obligation. Donc, l'agriculteur peut rester sur un mode locatif avec Fèves, et nous, tant que les pratiques agroécologiques sont respectées, on est ravis de supporter nos agriculteurs. Donc voilà un peu sur les grands principes de Fèves. Et du coup, comment on finance ces exploitations? Et c'est vrai que vous, tous les auditeurs, vous pouvez aussi intervenir si vous n'êtes pas tous porteurs de projet. Pour l'acquisition des fermes, en fait, on a une foncière solidaire donc qui collecte de l'épargne auprès de citoyens, donc à partir de 500 euros. Et qui nous permet derrière de racheter les fermes. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir effectivement comment cela fonctionne. Si en plus vous avez la chance de pouvoir payer l'impôt sur le revenu, investir dans Fèves vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 25%. Donc voilà, c'est un petit bonus supplémentaire pour tous les heureux investisseurs dans notre foncière. Voilà pour moi. Eh bien, écoutez, je vais passer la parole à Fabien, puis on reviendra certainement un peu plus en détail sur le rôle de Fèves dans ce beau projet.
Oui, c'est
Ah, je
ça,
crois
merci.
qu'il y a peut-être une question tout de suite. Est-ce que tu veux qu'on
Oui.
réponde maintenant, Colline, ou
Je voudrais juste finir le tour de table pour qu'on puisse voir tous les intervenants. Patrice de Colmont, qui était investisseur aussi dans le projet, a eu un petit empêchement, donc peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route, mais on va finir le tour de table avec Fabien. Peut-être que tu pourrais te présenter. Tu es membre de l'association d'agroforesterie. Est-ce que tu pourrais aussi nous rappeler un petit peu les missions de l'association et peut-être du coup ce que. Le rôle qu'a joué aussi l'asso dans le projet de la ferme du vivant.
Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Fabien Balaguet. Je représente aujourd'hui l'Association française d'agroforesterie. Je vais vous partager un petit visuel d'ailleurs, tant qu'on y est, si j'ai le droit. Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui, là, c'est bon.
Fonctionne? Il paraît qu'un bon schéma vaut toujours mieux qu'un long discours. Donc, comme j'ai l'habitude de beaucoup parler, je vais essayer d'être synthétique. Le travail de l'Association française d'agroforesterie, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, hein, de soutenir le développement de l'agroforesterie en France. L'agroforesterie, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire une agriculture, donc plutôt sur la droite, hein, de l'écran, une agriculture qui maximise le vert au sens physique du terme, VERT. Donc la photosynthèse, donc le cycle du carbone et tout ce qui va autour. C'est-à-dire évidemment le bilan hydrique, on en parle beaucoup, évidemment tous les bilans de l'agriculture, l'azote, la biodiversité, tout ce qu'on veut, et à la fin le bilan économique, puisqu'en fait il se trouve que tout ça est intimement lié. Et qu'avec le modèle que vous avez à gauche, alors on ne dit pas que toute l'agriculture française est comme ça, hein, il y a tout un tas d'intermédiaires évidemment, Mais dans un modèle où vous avez peu de photosynthèse et peu de plantes au mètre carré, et ben vous avez une productivité qui est nécessairement pas maximale. Donc notre objectif, c'est d'empiler des plantes. Et quand on empile des plantes, on utilise des plantes géantes qui s'appellent des orques et qu'on intègre, voilà, avec les bonnes techniques, avec le bon modèle économique, avec le bon calendrier de travail, etc., qu'on intègre dans le modèle de production. Donc c'est bien une approche productive. L'arbre redevient une plante cultivée, entre guillemets. Voilà, et donc notre travail, c'est tout ça, c'est d'accompagner. Donc on fait de l'animation technique, hein, donc dans les territoires. Le métier premier d'une association, c'est quand même de construire un réseau d'acteurs et puis de leur permettre de travailler ensemble. On fait de la R&D, donc c'est une agriculture qui se réinvente chaque jour. Donc il faut développer des techniques, innover, essayer d'analyser les retours sur expérience, etc. Et puis après, on a une approche filière de plus en plus, filière et territoire, puisque tout ça est lié. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller remettre ça dans l'économie et dans l'assiette du consommateur, dans l'assiette ou éventuellement dans la chaudière, si on utilise le bois en bois énergie, par exemple, mais toujours avec un usage local intégré au territoire. Voilà. Et puis à la fin, ben, bien sûr, comme toute association, on fait aussi la sensibilisation, la formation, parce que c'est l'un des leviers essentiels du développement. Et puis derrière la vulgarisation, hein, ce qu'on appelle la communication au sens large, pour essayer de faire résonner tout ça dans la société, parce que ce grand sujet nous concerne tous au moins 3 fois par jour.
Super, merci Fabien. Effectivement, donc du coup, il y avait une question. Alors, je pense que c'est le nom de famille de Faux. Si vous voulez la poser, j'ai désactivé le micro, mais je peux vous réactiver le micro. Sinon, on continue et on les posera à la fin. Ou sinon, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme ça, on fait le déroulé et puis après, je les pose au fur et à mesure moi aussi. Donc, n'hésitez pas à réallumer votre micro si vous voulez poser la question, sinon je continue. Et du
Du
coup,
coup,
toi, Fabien.
je m'excuse, j'ai fait sauter le partage
Ah oui, non, mais
qui avait dit
c'est
précédent.
pas de souci, pas de souci. Je reviens sur le partage, effectivement. Du coup, toi, de ton côté, Fabien, qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de la ferme du vivant? Qu'est-ce qui a fait sa particularité par rapport à d'autres projets que tu peux voir au sein de l'association?
En fait, on a rencontré les personnes avant de rencontrer la ferme, puisque historiquement, avec Max, on se connaît depuis quelques années, et puis on sait que le projet est en train de mûrir dans leur tête. Ils sont plusieurs autour de Max. Et voilà. Et donc, ce qui déjà est très séduisant, c'est que ce n'est pas un projet qui est né hier, c'est un projet qui se construit petit à petit avec des expertises mises en commun. Et donc, une ferme qui, effectivement, a été là au bon endroit, au bon moment, pour mettre en œuvre tout ça. Moi, ce qui me séduit, et je dirais même nous collectivement, hein, ce qui nous séduit dans un projet comme ça, c'est qu'en fait, c'est un vrai démonstrateur potentiel de ce qu'on peut faire au XXIe siècle pour essayer d'avoir une agriculture qui marche un peu mieux à tous les niveaux, hein, pour l'environnement et à la fin aussi pour l'économie, pour l'agriculteur, pour son cadre de vie, etc. Donc en fait, on est sur un projet vraiment systémique, qui s'intègre dans un territoire avec une approche, comme on va le détailler sans doute, mais une approche vraiment de circuit court. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un peu notre rêve à l'Association française d'agroforesterie d'avoir des projets comme ça où on peut finalement rentrer en agroforesterie et à écrire cette histoire-là. Et puis derrière, alors c'est pas juste une vitrine, hein, c'est une ferme en chair et en os, enfin réelle au quotidien. Et l'idée, c'est ça, c'est que si on avait finalement ça un petit peu partout sur le territoire, ça permettrait aussi d'inspirer probablement la transition de toutes les fermes qui existent et qui font plein de choses géniales aussi, mais encore une fois, là, on est sur quelque chose d'un peu, on a la possibilité presque de partir de la page blanche, et ça, c'est un luxe. Donc, on est très content de pouvoir se permettre une fois de temps en temps.
Oui, ce que j'avais vu enfin, sur la ferme du vivant aussi, c'était cette approche globale. Max, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu as présenté le projet, mais vous aviez vraiment l'envie que ce soit qu'il y ait plein d'ateliers qui s'imbriquent, etc. Est-ce que tu peux en parler un petit peu peut-être de cette fa de la façon dont vous avez réfléchi le projet et puis comment vous l'avez financé du coup. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, les étapes par lesquelles vous êtes passé. Patrice n'est pas là aujourd'hui, mais pour parler de ces investisseurs qui ont aussi été séduits par ce projet-là.
Ça s'adresse à moi la question?
Oui, tout à fait.
Juste un aparté, avant de continuer, il y a monsieur ou madame Defoe là qui se manifeste. On répond
Oui.
pas aux questions, c'est après?
Ben si, mais je l'ai sollicité, mais j'ai pas, enfin, la personne
Bon,
n'a
allez,
pas
ça va. Tout à l'heure,
réagi.
j'ai mis des commentaires avec des gens qui voulaient. Je suis retraité, je peux aider. Elle écrit là. Elle ou il écrit. Donc,
Ah,
retraité,
voilà.
donc c'est une dame. Voilà. Bon, moi, je veux bien continuer, hein, mais s'il y a des gens qui ont des questions à poser, c'est le plus intéressant, je crois,
Oui, tout à fait. Mais je vais, en fait, je prends les questions dans le chat et après, c'est vrai que là, la personne avait levé la main, donc je lui ai donné la parole, mais n'a pas saisi l'opportunité. Mais tu peux continuer et après, je poserai les questions s'il y en a effectivement
Voilà,
dans
ne pas
le
hésiter
chat.
à me couper la parole.
Bien évidemment.
Alors, justement, parce que je vais rebondir sur ce que je viens de dire par rapport au fait que sur le webinaire, là, c'est Max Tortel agriculteur. Donc, c'est pas Max Tortel agriculteur, c'est un collectif. Bon, il faut bien mettre qui je suis, hein, je comprends. Mais c'est un collectif, c'est une réflexion collective et c'est surtout un projet qui, dans l'avenir, va se construire à plusieurs. On oublie trop dans nos entreprises, quelles qu'elles soient, et dans l'agriculture, malheureusement, encore plus qu'ailleurs, que l'être humain doit être au cœur des projets. Donc, quand on a des êtres humains qui s'intéressent à un projet, et si demain on a des gens qui veulent venir nous rejoindre, je veux dire, c'est bravo. Après, il faut organiser, il faut gouverner ensemble, que ça tienne la route. Mais c'est ça qui est très intéressant. Je crois que les gens qui s'intéressent à Fèves et les gens qui sont là aujourd'hui sont des gens qui s'intéressent à l'avenir de leurs enfants, s'ils en ont, de leurs petits-enfants encore plus, et de la planète. Donc, je crois que moi, je sais que jusqu'à la fin de mes jours, ça sera mon investissement personnel, tant que j'ai la santé. Pour le faire. Voilà. Et c'est que du bonheur que de se retrouver avec des jeunes qui vont vouloir créer leur entreprise et de leur transmettre ce que nous avons appris et ce que l'on sait, de faire le lien avec des associations ou avec des professionnels ou autres, ou des entreprises, hein, comme l'Association française d'agroforesterie, comme FEP pour trouver des terres, etc. Je veux dire, on doit être à un carrefour. Voilà. Alors, nous, quelles sont les personnes qui, à ce jour, ont investi pour l'acquisition du bien? Moi, je suis très transparent. La finance, pour moi, elle n'est pas taboue. C'est un outil, hein, pas une fin. Donc, on parle d'argent. Et on a donc dû en acheter cette ferme 1 250 000 euros. Sur le 1 250 000 euros, comme j'ai dit tout à l'heure, l'immobilier est cher chez nous. Donc, il y a 300 000 euros. De 300 000 euros de terre, c'est-à-dire entre 5 et 7 000 euros de l'hectare, puisqu'il y a 45 hectares. Et ensuite, il y a une bastide qui pèse lourd dans la balance et qui fait donc entre 900 000 et 1 million d'euros. Là-dessus, on rajoute les frais SAFER, on rajoute les frais intermédiaires, on rajoute les frais de FEV, puisque FEV, en tant que collecteur d'argent, ben, rémunère ses investisseurs et c'est tout à fait normal. Et bien qu'ils soient rémunérés, il faut en plus les remercier de choisir ce support d'investissement. Et donc derrière, on a donc une bastide qui faisait un petit million d'euros. Et donc ça nous a coûté 1 390 000 euros. Voilà. Donc c'est bien beau, mais quand on met de l'argent sur la table, bon, si on a fait un crédit, il faut penser à rembourser déjà. Et ensuite, si on a permis à des gens d'investir, il faut également honorer cet investissement et les rémunérer. Donc, la priorité, forcément, c'est l'économie. Et la première des choses, c'est de nourrir les gens qui vont travailler sur la ferme et également de nourrir les investisseurs, parce que ben, s'ils n'étaient pas là, ben, il n'y aurait pas de projet. Voilà. Donc, on ne va pas faire appel au CAC 40, on ne va pas faire appel aux banquiers. Pas qu'ils soient pas capables d'eux, mais simplement quand c'est un peu innovant, surtout en France, et quand on a envie de défricher, c'est souvent très compliqué. Heureusement qu'on a des pionniers qui sont des personnes physiques ou des personnes morales, hein, si c'est des fondations d'entreprise ou si c'est des holdings de famille, qui eux font avancer les choses. Bref. Donc, par rapport à ça, on est allé chercher des amis. Premièrement, autour de l'environnement, Pierre Rabhi, puisque moi je suis trésorier du fonds de dotation de Pierre. Donc, il y a le secrétaire qui s'appelle Patrice de Colmont qui devait venir aujourd'hui, mais il a une activité saisonnière et là, il est en train de démarrer sa saison, donc il est à fond. Patrice, a été le vecteur qui a permis, en tant que personne physique, de pouvoir boucler ce dossier. Patrice est quelqu'un qui côtoie le monde, on va dire, du business, on peut pas dire du show business, mais qui derrière a une humilité et a un investissement pour l'agroécologie qui est exemplaire. Donc il avait déjà investi dans des terres et il a recommencé avec nous. Les autres fois, il l'a fait plutôt seul. Et là, cette fois, il l'a fait en collectif parce que derrière, il y avait des personnes de valeur et c'est la principale valeur commune et l'agroécologie. Ce qui l'intéressait, c'est l'agroforesterie également, parce que jusqu'à maintenant, il n'avait pas trop mis, on va dire, le doigt là-dedans. Et ensuite, le collectif. Donc, le collectif, on a la chance d'avoir également des fondateurs du 1% pour la planète. Okay, qui est à la tête d'un groupe en produits issus de l'agriculture biologique et donc qui a fait partie des investisseurs en direct. Donc Patrice et Charles, ça s'appelle Charles. Et ensuite, on a créé un petit collectif avec une société d'animation qui va animer le projet et de gouvernance, dans lequel il y a Patrice, dans lequel il y a Charles. Mais il y a des gens qui ont beaucoup moins de moyens, donc je donne une fourchette entre 10 et 20 000 euros, et qui, à titre personnel, font partie de l'équipe pour avoir leur mot à dire et dire ce qu'ils pensent de l'évolution du projet. Donc on a aujourd'hui, de mémoire, 7 ou 8 personnes au total, et il y a encore des places à prendre, puisqu'on va faire des augmentations de capital, parce qu'on a acheté. On installe et on démarre la ferme. Maintenant, c'est la phase 2, pour pas dire 3, qui est la phase investissement dans la transformation, dans la commercialisation et, comme on a une grosse bastide, dans l'agrotourisme, la formation pour utiliser, puisqu'on va monter les cycles de formation, dans cette bastide, sur cette bastide. La
Ah,
deuxième,
super.
c'est pour après. Je vous le
Non,
dirai.
mais super, c'était très précis, très clair. C'est bien d'avoir autant de transparence, je pense, pour les gens de se rendre compte à quel point c'est pas facile de financer un si gros projet. Et justement, tu parlais du coût de la Bastide et il y a Jean-Jacques qui pose la question de à quoi va servir cette Bastide dans le projet. Je sais que vous avez des activités du coup d'agrotourisme pour connecter un petit peu les gens avec les agriculteurs. Est-ce que tu peux en parler?
Alors, la première des choses, c'est d'héberger les gens qui travaillent sur site. Donc, on va proposer à des prix sympathiques par rapport au prix de l'immobilier, enfin de la location immobilière chez nous, OK, aux paysans qui vont venir travailler, de pouvoir habiter sur place. OK. L'agriculture, l'agroécologie, bien sûr que c'est un outil de travail, bien sûr qu'il faut que ça rapporte pour vivre et faire vivre sa famille. Mais c'est aussi une passion et les gens qui aujourd'hui font des reconversions et se mettent à faire ça, c'est aussi et d'abord parce qu'ils sont passionnés. Donc on veut qu'ils soient heureux. Nous, la première. Ce qui nous intéresse le plus, c'est pas le produit intérieur brut, comme vous le savez bien, c'est le bonheur intérieur brut. Hein? OK? Donc on veut des paysans heureux. Donc déjà aujourd'hui, on a une personne qui habite sur site et qui est salariée de la ferme du vivant pour travailler et aider Gilles qui est gérant. Qui lui n'habite pas sur site, il habite à côté, pour donc la partie des cochons plein air, agroforestiers. Ensuite, on veut installer un maraîcher avec le couple toujours polyculture élevage, donc maraîcher poule pondeuse, sur 1 à 3 hectares suivant s'il y a des serres ou du plein champ. Ensuite, on a démarré. En agriculture biologique, une filière qu'on appelle les artisans oliverons et pour la création d'une huile premium en termes qualitatifs qui s'appelle l'élixir d'olivier. Et donc, on voudrait installer un oliveron ou une oliveronne, hein, comme vigneron, vigneronne. Okay, et toujours pareil, agroforestier. Couple avec un élevage d'animaux Et là, je me suis adressé à Fabien, qui a de l'expérience dans le sud-ouest sur le sujet, pour faire du canard de chair. Et parce qu'on va avoir sur site un atelier de transformation. Et donc, on veut valoriser cet élevage donc, par de la découpe et de la vente en circuit court. Donc, canard olivier, avec à peu près 5 hectares et 1 millier d'oliviers. Une faible densité d'oliviers à l'hectare pour avoir avant tout de la qualité. Donc, sur la ferme, sur la Bastide, pardon, on va donc avoir, donc il y a un apiculteur qui va venir, et on a aussi 60 hectares de bois, il faut tout que je vous dise, hein, on a 60 hectares de bois en convention de pâturage ou bail qui risque de sortir en plus à côté des 45 hectares que nous avons. Et là, si on a ces 60 hectares, on aimerait installer berger, bergère, couple de berger, bergère, fromager pour faire du yaourt de brebis. Voilà. Au final, que des bons produits locaux issus de l'agriculture biologique. Donc, sur les 1000 hectares au total de la Bastide, il y a 500 hectares, 550
1000 mètres carrés.
mètres carrés, pardon, hectares pour une Bastide, c'est pas terrible. Excusez-moi. Il y a 1000 mètres carrés. Sur les 1000 mètres carrés, il y a 550 mètres carrés à réhabiliter. Bon, c'est une ancienne Bastide qui était un domaine viticole. Et on a des terres sur lesquels on pourrait faire du vin, mais c'est AOC Pays d'Aix. On ne veut surtout pas faire du vin, okay? Et donc, bon, il y avait une partie de la Bastide qui servait à loger les personnes qui venaient faire les vendanges, les vendangeurs. Voilà. Donc, là, on va avoir 550 mètres carrés qui vont être divisés sur à peu près 200, 250 mètres carrés, 300 mètres carrés maximum pour les paysans qui habitent sur site. Et ensuite, on va faire des chambres d'hôtes et des gîtes. Voilà. Où là, l'activité première, c'est de recevoir des stages, donc des gens qui veulent se reconvertir en polyculture, élevage, agroforesterie. Et on a la chance d'avoir un lycée agricole qui est à 25 minutes du site, qui s'appelle le lycée agricole Provence Verte, qui est à Saint-Maximin, avec une direction qui est exceptionnelle et qui a compris que l'agriculture de demain, c'était une agriculture paysanne, mais aussi de l'artisanat, donc de la transformation et de la vente en circuit court. Et donc, on va monter, et avec Fabien et l'Association française d'agroforesterie, une formation diplômante, niveau bac plus 3, a priori, ou en alternance, et ou en alternance. Et donc, on va loger sur site à la Bastide, mais pas que, aussi une annexe. Donc, ces jeunes qui vont s'imbiber, j'emploie le terme, s'imprégner de l'esprit paysan et de l'agroforesterie telle qu'on la conçoit. J'ai répondu, comme
Oui,
d'habitude,
très bien.
non, mais
Non, mais
c'est
très bien.
pas mieux.
Non, mais je continue du coup parce que comme tu as cité plein d'ateliers justement et ça regroupe, enfin, ça retombe sur les questions qui sont dans le chat sur justement combien de personnes en fait il y a aujourd'hui et combien de personnes vous allez faire travailler à terme et en fait comment s'est structuré le collectif, sous quel statut vont être ces personnes-là et comment vous sur le collectif vous êtes structuré juridiquement?
Alors, déjà, on va évoluer vers une coopérative au niveau de, si tous les associés sont d'accord, bien sûr, un homme, une voix. C'est le principe. Qu'on ait apporté 100 000 euros, qu'on ait apporté 10 000 euros, un homme, une voix. Ou une femme, une voix, bien sûr. On va, sur le collectif d'animation qui s'appelle Domaine d'Artigues. Artigues, c'est la commune. OK. On a un bail commercial pour exploiter la Bastide avec Fèves. Okay. Quand je dis Fèves, ce n'est pas Fèves, excusez-moi, c'est la SCI dans laquelle Fèves à 60%, puisqu'après 40%, c'est les investisseurs en direct. Okay. Dans le cadre de ce bail commercial, on va faire des travaux de rénovation, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas aux normes pour faire de l'habitat et de la location. Et ensuite, derrière, il y a des baux ruraux qui sont faits pour les terres. Alors, les paysans seront locataires et non pas propriétaires, ce n'est pas une copropriété dans la Bastide. Et en ce qui concerne les terres, on veut que le paysan entrepreneur ait un bail rural environnemental, ce qui est le cas avec Fèves, de 25 ans, je crois que je ne dis pas de bêtises, pour avoir ses propres terres. Et de la même façon qu'on crée une entreprise, Si on crée de la valeur, le jour où on part, on fait une évaluation comme un fonds de commerce. Si je prends l'exemple des oliviers, 5 hectares, bail rural avec la SCI Domaine de la Modeste, ok? C'est la SCI propriétaire du site. Bien. Ce bail rural, pour les oliviers, quand on plante des oliviers, on va planter des oliviers qui ont entre, on va dire, 1 an et 20 ans, pour avoir un échelonnement dans la production et dans le démarrage, c'est une valeur patrimoniale. Donc, supposons que ça coûte 150 euros à peu près en moyenne par olivier. Si on en plante 1 000, ça fait 150 000 euros. Mais dans le plan de financement et le prévisionnel, il est prévu, bien sûr, de gagner un peu d'argent avec l'huile d'olive pour payer ces oliviers. S'il y a des canards, ça c'est un investissement parallèle avec un petit peu d'investissement, même si en plein air, il y a quand même un peu d'investissement au niveau des bâtiments mobiles, au niveau des mangeoires, de l'eau, etc., etc. Enfin bref, la clôture, parce qu'il faut clôturer. Bon, ben, tout ça, c'est un budget d'investissement d'exploitation. Si dans 10 ans, les jeunes ou les moins jeunes, ou dans 20 ans, décident de partir, combien ça coûte, combien ça rapporte, combien ça a coûté, combien était amorti, qu'est-ce que ça rapporte? Et au final, ben, celui qui arrive derrière, il va falloir qu'il paye une partie du patrimoine et du travail qui a été fait. Donc, chaque fois, des entrepreneurs indépendants, puisque nous, notre objectif, c'est d'initier et de donner envie d'être entrepreneur de la terre, on va le dire comme ça.
Super, c'est très clair. Je rebondis sur les questions qui sont dans le chat et peut-être que du coup ça va s'adresser aussi à Simon. Est-ce que tu t'as rappelé tout à l'heure la mission de Fève? Comment ça se déroule quand on a un projet comme celui de Max et qu'on veut solliciter un financement auprès de Fève? Quelles sont les étapes? Et derrière, justement, là, la personne parlait des montants de fermage ou des coûts d'acquisition de terres, etc. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux décrire un petit peu le processus?
Oui, tout à fait. Donc, on a un processus très cadré, en fait, en trois étapes. D'abord, on évalue les capacités du porteur de projet, en premier lieu, pour vérifier son aptitude à reprendre une exploitation agricole et être chef d'exploitation agricole, hein, qui est quand même un métier pas si évident. Donc, voilà, est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il a l'expérience? Est-ce qu'il a tout simplement les capacités pour gérer une exploitation? On va ensuite évaluer le foncier agricole, la ferme, son parcellaire, l'état des bâtiments, les travaux qui sont envisagés. Est-ce que la ferme est adaptée à faire de l'agroécologie et sous quelles conditions? Est-ce que le prix de marché est cohérent? Ça, c'est évidemment très important. Et sinon, on va aller négocier ce prix avec les cédants. Et si tout ça est OK, et que le porteur de projet confirme son intérêt pour la ferme en question. On va faire une évaluation du projet. Donc, c'est le porteur de projet sur la ferme. Et donc, voir si économiquement, agronomiquement, techniquement, le projet semble viable et répond aux exigences de Fermes en Vie que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On a en fait un cahier des charges, une charte agroécologique qui implique par exemple, préserver préserver les sols, préserver la biodiversité, passer au bio dans les 5 ans après son installation. Donc, toute une série de mesures, en fait, qui permettent de garantir que le projet va aller dans la bonne direction en termes d'agroécologie. Donc, si tout ça est respecté, eh ben, on va procéder à l'acquisition de la ferme pour les porteurs de projet. Ce qui va mener, une fois que l'acquisition sera faite, à la signature d'un bail de 25 ans avec des clauses environnementales qui correspondent peu ou prou à ce qu'on a dans la charte. Et donc, sous réserve du respect de ces clauses environnementales, le porteur de projet, comme je le mentionnais tout à l'heure, pourra à tout moment, s'il le souhaite, racheter à la foncière les terres et bâtiments qu'on aura portés et financés. Il y avait une petite question sur le montant du fermage. En fait, comme on signe un bail rural avec les porteurs de projet, on tombe tout à fait dans le cadre des baux ruraux, de la réglementation en la matière, et donc on respecte très scrupuleusement les arrêtés départementaux. Donc chaque département fixe par typologie d'exploitation, par typologie de terre, qualité des terres, des barèmes pour la fixation des loyers. Nous, on respecte tout à fait ces barèmes de location. Voilà un peu les grands principes. Il y avait une petite question pour la SAFER à laquelle je vais répondre aussi. En fait, bah, typiquement, sur ce projet-là, on est passé avec la SAFER pour l'acquisition et c'est le cas dans de très nombreux projets que peut gérer FEV aujourd'hui. On a des très bonnes relations avec la SAFER. On a souvent des porteurs de projets qui sont prioritaires pour les reprises d'exploitation parce qu'ils sont jeunes, ils sont en première installation. On reprend des fermes dans leur intégralité, bâtiments et terres comprises. Donc voilà, on a souvent des projets qui sont prioritaires. Et donc jusqu'à présent, on a quasiment été retenu. Enfin, dans 95% des cas, nos porteurs de projet et le projet défendu par FEV ont été retenus dans les processus d'attribution par les SAFER. Donc voilà, on travaille en très bonne intelligence avec ces structures.
Ok, super. Et justement, enfin, là, tu parlais de la partie financement. Max, il cherche actuellement un maraîcher, un atelier pondeuse, etc. Tu peux parler de l'intervention de FEV dans la recherche de porteurs de projets supplémentaires, justement?
Oui, donc dans ce cas-là, on procède à un appel à projet. Donc, on a effectivement un appel à projet en cours pour le site de la ferme du vivant. Et donc, ben, il suffit de soumettre vos candidatures donc via notre site internet ou via le lien que vous trouverez dans les appels à projet qui peuvent être diffusés pardon, sur différents réseaux sociaux. Donc, ben, vous transmettez votre candidature. Ensuite, ben, c'est assez similaire à ce qu'on fait pour une installation classique, hein. On va évaluer le candidat. Évaluer son projet, puisque on va pas évaluer la ferme, on l'a déjà. Ce candidat, si nous on le valide, va être présenté évidemment à Max Tortel et son équipe, puisque bah, le but, ça va être de travailler à leur côté sur le site. Donc évidemment, il va falloir qu'ils valident les candidats eux aussi. Et si, bah, si le candidat est validé et le projet est validé par tout le monde, alors dans ce cas-là, on signera également un bail sur les terres qui seront exploitées par l'agriculteur, un bail avec eux sur les surfaces dont ils auront besoin pour tenir leur atelier. Alors là, sur la ferme de la Modeste, qui est un peu particulière, l'option d'achat sera sans doute, enfin, sera différente. C'est-à-dire que les porteurs de projet auront la possibilité d'acquérir des parts de la SCI, mais on veut garder la structuration de la SCI pour garantir aussi la pérennité du site et le fait que plusieurs agriculteurs cohabitent sur le même site. Donc, il n'est pas question de vendre 2 hectares de terre à un agriculteur en particulier. Voilà, c'est chaque agriculteur pour être associé, on va dire, au sein de la SCI et donc participer à son exploitation aux côtés d'autres agriculteurs installés sur le même lieu.
Et je rebondis sur les questions du coup qui arrivent dans le chat. Justement, Jean-Jacques demande sur l'évaluation du prix des fermes. Est-ce que vous avez prévu les études de l'état des terres à exploiter, l'étude de la gestion de l'eau, etc.?
Donc là, on l'a pas encore mis en place sur la Modeste, mais c'est prévu par FEV en systématique sur chaque reprise d'exploitation de faire une étude de sol. Également pour guider les agriculteurs en place hein, sur bah, les meilleures pratiques à envisager compte tenu du contexte sur l'exploitation. Donc ça, il faut qu'on le programme, avec la ferme du vivant sur ce site-là. Et ça nous permettra aussi de revenir dans quelques années, refaire des analyses et voir comment, en termes de dynamique, les choses progressent sur le site. Aujourd'hui, voilà, on aura ces études qui sont donc à la fois des études de sol, mais aussi derrière des recommandations agronomiques pour aussi les consommations d'eau, par exemple. Et puis après, avec la FAF, mais Fabien peut aussi en parler, c'est aussi l'objectif de travailler avec la FAF sur toute la partie plus agroforestière et biodiversité liée à cette agroforesterie. Donc, s'entourer de partenaires qui ont une réelle expertise sur tout ou partie de l'exploitation ou des ateliers qu'on veut mettre en place.
Tu me fais une très bonne transition, puisque du coup, ma question, c'était aussi de savoir comment l'agroforesterie, elle s'imbrique dans chacun des ateliers de la ferme et Fabien, peut-être que tout le monde n'est pas au fait des avantages et des inconvénients ou du coût de ces procédés d'agroforesterie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus en détail?
Oui. Alors c'est une très large question parce qu'en fait l'agroforesterie ce n'est rien d'autre que l'agriculture durable par et avec l'arbre. Voilà. Et en fait au XXIe siècle c'est donc l'agriculture durable parce qu'en fait on a fait l'expérience d'une agriculture sans arbre depuis plusieurs décennies déjà un peu partout dans le monde. Ça n'a jamais fonctionné sur la durée. Ça fonctionne un petit peu. Et puis il y a toujours un moment où le modèle s'emballe et où finalement les aléas divers hein, nous rattrapent. Donc en fait, le but, ce n'est pas de remettre l'arbre comme un totem dans le paysage, hein, c'est vraiment de l'utiliser comme un moyen, comme un outil de production dans une boîte à outils où on a aussi toute l'agronomie, hein, la reconstruction des sols au sens large, pour essayer de construire des modèles plus résilients, plus productifs, comme je disais tout à l'heure, en photosynthèse, donc en biomasse, hein, biomasse pouvant être à usage alimentaire, à usage énergétique, à usage ce qu'on veut finalement. Mais le but du jeu, c'est ça, c'est de faire rentrer le plus de soleil possible dans le système et de valoriser ce que ça produit. Voilà. Alors après, ben, l'agroforesterie, du coup, c'est un vaste champ des possibles où on a la possibilité d'imaginer des modèles. Alors il y en a des très courants. Hein, on a parlé, alors, Olivier Canard, par exemple, on pourrait avoir. Ben voilà, les modèles classiques autour du fruit à coque avec des poulets en dessous, etc., qui sont des modèles qu'on connaît vraiment beaucoup. Enfin, on a beaucoup de retours d'expérience et on sait que les modèles économiques sont robustes, hein, sont très solides. On a une vraie complémentarité finalement entre le bien-être animal qui est amélioré, le recyclage des effluents, la biodiversité, l'équilibre aussi alimentaire pour les animaux, parce qu'en fait, ils s'alimentent de l'aliment qu'on leur fournit, mais ils s'alimentent aussi de l'écosystème. Hein, donc avec des petits fruits, des insectes, des vers de terre, de l'herbe, etc., etc.
Est-ce que tu peux préciser juste peut-être que tout le monde n'est pas dans l'agriculture, justement pourquoi le bien-être animal est amélioré grâce à l'agroforesterie,
Oui,
dans quel type?
principalement parce qu'un animal, et on en fait partie d'ailleurs de ces animaux, quand vous le mettez en milieu ouvert, soumis à des aléas climatiques variés, hein, que ce soit en plein hiver, en plein été, sous la pluie, etc., ben, en fait, il souffre et il produit moins. Voilà. Donc déjà, il se sent moins bien d'un point de vue bien-être. Mais en plus, on a parfaitement chiffré la perte de production que ça représente. Le point de départ, c'est qu'en fait, il faut thermoréguler, il faut maintenir la machine biologique dans son fonctionnement, et que plus vous faites varier les conditions, ben plus l'énergie que vous perdez à maintenir la machine biologique est importante, ce qui fait qu'il reste moins sur la production derrière. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir finalement un système un peu climatisé, on va dire, où on amortit les extrêmes et qui permet aux animaux finalement de mieux vivre et de mieux produire. Je rappelle aussi que tous les animaux qu'on élève, ou en tout cas l'immense majorité, viennent dans leur évolution de systèmes forestiers ou pseudo-forestiers. Hein, la vache, le cochon, le poulet, voilà. Ces animaux qui viennent de la forêt. Voilà. Donc le but du jeu, c'est un petit peu de reconstruire ça avec des formes d'arbres très variées, des types d'arbres très variés aussi, des arbres à croissance rapide, à croissance plus lente, etc. Les usages, ben, ça peut être des arbres fruitiers, des fruitiers à coque, des arbres fourragers aussi, hein, par exemple, le cochon, faut pas oublier, est un grand herbivore, même si on l'oublie très souvent. Et en réalité, avoir des arbres fourragers en complément, ben, ça peut aussi servir à varier l'alimentation. Alors parfois, on parle de la quantité que ça peut représenter dans la ration, qui est effectivement conséquente, mais il y a aussi la diversité de l'alimentation. Et quand on veut du produit fini avec une qualité, y compris d'ailleurs des équilibres nutritionnels, oméga-3, oméga-6, etc., ben on se rend compte que cette diversification, elle est importante, au-delà de la part que ça représente dans la ration. Voilà, je détaille pas plus, mais donc en fait, il faudrait idéalement que tous les systèmes de production agricole pensent agroforesterie à un moment ou à un autre, c'est-à-dire en emboîtant des plantes annuelles, des plantes pérennes et des animaux, que ce soit des herbivores ou autre chose. Voilà, et c'est un petit peu ce qui est tenté là sur cette ferme et dans plein d'autres fermes en France, hein, heureusement. On n'a rien inventé, hein. Vous prenez le bocage, vous prenez le pré-verger, qui sont des systèmes agroforestiers. traditionnel, le sylvopastoralisme aussi en sous-bois forestier. Ce sont des modèles agroforestiers hyper pertinents, hyper productifs et hyper intensifs. Je pense qu'il faut, faut assumer le mot. Intensif en valorisation des ressources.
Et le Var, c'est une région qui est quand même assez soumise aux aléas climatiques et notamment aux sécheresses, etc. Est-ce que la FAF va accompagner justement la ferme du vivant à s'adapter un petit peu à son territoire avec cette partie agroforesterie et l'adaptation au changement climatique, etc.
Oui, en fait, l'essentiel des demandes qu'on reçoit, c'est en France, un peu partout, c'est aujourd'hui pour de l'accompagnement technique. Alors, il y a aussi l'accompagnement financier, mais vous êtes là pour ça, là, dans le projet qui nous concerne, et c'est très bien. Mais globalement, on a pas mal d'agriculteurs qui essayent d'inventer la suite, hein. L'agriculture, elle a toujours été en mouvement depuis 10 000 ans, donc il n'y a pas de problème. Mais qui ont un peu évidemment du mal à savoir par où commencer. C'est tellement un vaste challenge. Et donc là, l'objectif dans ces accompagnements-là, c'est d'utiliser les retours d'expérience, d'essayer d'aller agréger finalement, trouver ce qui se fait un petit peu dans des cas similaires, partir d'une base, on va dire, technique la plus importante possible, hein, en sachant qu'encore une fois, on met un pied devant l'autre. Et puis, on se sert aussi de certains projets pour innover, en fait, pour aller un peu au-delà de ce qu'on sait et pour tester des modèles qui demain pourraient se révéler être des solutions. Voilà, donc là, à chaque fois, on le dit à l'agriculteur quand on le propose, hein, l'agriculteur qui n'a pas envie de prendre ce risque, il a tout à fait le droit. Mais là, avec Max, on a eu cet échange déjà plusieurs fois et c'est aussi l'ambition, c'est que cette ferme soit aussi un laboratoire à ciel ouvert, entre guillemets, qui permettent d'aller développer l'agriculture méditerranéenne du 21e siècle, sur laquelle on a encore plein de choses à inventer et qui, sans doute, pourra nous servir plus au nord dans quelques décennies.
Ok, super. Il y avait une question dans le chat, mais je ne suis pas sûre de bien la comprendre. C'est est-ce que cette régulation ne risque pas d'affaiblir les espèces? Alors, c'est peut-être par rapport à
La
la
régulation
situation.
climatique?
Je ne sais pas. Je pense que c'était plus par
Si,
rapport à ce que tu as dit juste avant. Je ne sais pas.
ouais, c'est une question de dose. Si vous mettez des vaches en permanence dans des bâtiments sans aucune variation, bâtiments chauffés, ventilés, etc., et que vous leur amenez à manger sans qu'elles aient besoin de se déplacer, ah, je me rends compte qu'en fait ça existe. Ouais. Quand vous faites ça, le jour où vous sortez la vache, elle sait même plus manger de l'herbe. Donc voilà, c'est là on reste quand même dans le milieu naturel et c'est des animaux de plein air, c'est des animaux qui courent, c'est des animaux qui vivent tout simplement. Après voilà, il faut quand même que dans la bataille pour la survie, on a un certain nombre, enfin une majorité de ces animaux qui gagnent la bataille. Voilà. Sinon, c'est difficile d'avoir un modèle économique derrière. Voilà, donc le
Très
but, c'est
bien.
ça. C'est pas d'assister, je dirais, les animaux au point qui deviendraient des légumes.
Ok, super. Oui, c'est dans ce sens que la personne posait la question, donc c'est très bien. Bon, bah, super. C'est bien de voir un petit peu ce rôle justement de l'agroforesterie dans les fermes et de l'aspect agriculture durable que nous, on essaye de porter. Avec la charte fève. Il y avait Alain qui demandait justement comment est-ce qu'on peut assurer un maintien de culture, s'assurer du maintien pardon, de cette agriculture en cas de revente successive. Donc peut-être ça s'adresse plutôt à toi, Simon. Est-ce que tu peux répondre à cette question?
Disons que c'est une des difficultés, c'est toute la beauté et le problème de la propriété, hein, en France. À partir du moment où l'agriculteur redevient propriétaire, et il en a tout loisir, comme je vous l'ai expliqué, à partir du moment où il redevient propriétaire, s'il souhaite arrêter l'agroécologie, concrètement, il peut. Enfin, nous, on ne peut plus l'empêcher. Alors, moi, déjà par la sélection des agriculteurs qu'on accompagne, j'imagine que ce sera très peu le cas. J'ose l'espérer, en tout cas, que les modèles seront robustes, qu'ils fonctionneront. Donc, ça donnera évidemment envie aux agriculteurs de continuer, même s'ils sont propriétaires. Puis après, il y a une deuxième chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, ce sont les ORE. obligation réelle environnementale, c'est un type de contrat qui lie le propriétaire, son exploitant et un tiers, qui peut être une association, pour protéger certaines zones et garantir que même en cas de revente, certaines obligations perdurent sur l'exploitation. Donc on ne le fera pas forcément sur toutes les surfaces, parce que ça n'a pas forcément de sens, mais sans doute sur certaines zones critiques, un peu fragiles, les zones humides par exemple. Cet outil peut s'avérer extrêmement important pour sécuriser dans le temps, et quel que soit le propriétaire, encore une fois, ces surfaces. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. J'espère que ça répondait à la question.
Si je peux rajouter peut-être là-dessus,
Oui.
retour d'expérience. Comme je disais tout à l'heure, l'agriculture, elle n'est jamais statique. Les agriculteurs, tous les jours, observent, s'adaptent et inventent la suite. Donc, souvent, on parle de retour en arrière. Enfin, c'est des abus de langage. Bien sûr qu'on s'inspire du passé. Et après, on ne refait jamais deux fois la même chose. Et en réalité, dans ce que nous, on voit sur le terrain, il n'y a pas de retour en arrière. Aucun agriculteur, alors c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui sur l'agriculture bio en tendance, mais c'est un peu un épiphénomène quand même. Globalement, sur la transition agroécologique, il y a des agriculteurs qui marquent une pause, qui, je dirais, sont un peu moins dans l'innovation, etc. Mais ça ne veut pas dire que le capital qui a été créé, le capital de savoir-faire, est dilapidé tout de suite. Voilà. Parce qu'en plus, on ne fait pas ça par conviction et pour se faire plaisir. En réalité, c'est la façon de faire demain une agriculture qui permet à l'agriculteur de mieux vivre et qui permet au modèle économique de mieux s'équilibrer. Donc, il n'y a aucune raison. Alors, bien sûr, si on est très mauvais et qu'en fait, on vend du rêve, mais que les modèles économiques ne sont pas là, bon, bah, peut-être que ce ne sera pas durable. Mais si on fait bien notre boulot, bah, il y a toutes les chances. Évidemment que le capital, on va dire, soit préservé, voire enrichi chaque jour qui passe.
Super. Et je reprends juste deux questions de Thomas et de Duchesne. De savoir, en fait, en règle générale, dans les accompagnements de FEV, est-ce que le collectif de paysans continue à exploiter le bien sous forme de baux ou est-ce qu'ils préfèrent devenir propriétaires? Bon, on n'est pas arrivé on n'a que 3 ans d'existence, donc pour l'instant, on n'a pas de recul sur cette partie-là, mais peut-être que tu pourras répondre sur l'envie, en tout cas, des personnes de reprendre. Et il y avait l'autre question qui était un peu liée, qui est pourriez-vous à terme vous positionner sur un modèle sans option de rachat comme le fait Terre de Liens pour garantir la pérennité des projets?
Donc deux bonnes questions. Effectivement, tu le disais, on n'a pas encore de recul, mais la grande majorité des agriculteurs, des porteurs de projets qu'on installe, ont ce souhait, en tout cas se disent que à terme, ils pourraient vouloir acheter. Maintenant, on est prudent, hein. On estime au final que pas plus d'un tiers le feront effectivement, donc la majorité des terres resteront propriété de FEV, en tout cas sur une longue période de détention. Et on n'a pas du tout de velléité, pour répondre à la deuxième question, pas du tout de velléité de sécuriser, enfin de ne pas permettre ces acquisitions. On ne pense pas que ce soit forcément sain. Déjà, nous, on y a un intérêt, c'est que plus les agriculteurs deviendront propriétaires, plus on pourra récupérer de fonds pour racheter d'autres fermes et faire un plus grand nombre de projets. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même assez vertueux si un agriculteur en a les moyens, encore une fois, hein, mais s'il en a les moyens, c'est quand même très intéressant qu'il libère quelque part ce capital bloqué pour FEV pour qu'on fasse davantage de projets. Premier point. Deuxième point, c'est on le constate, et même aussi chez Terre de Liens, hein, sans vouloir trahir quoi que ce soit, mais le fait que l'agriculteur puisse se projeter comme propriétaire de ses terres. Souvent, ça le motive pour en faire plus, pour investir davantage de temps, voilà, replanter davantage de haies et autres, parce qu'il se dit, bah, à terme, tout ce que je fais là m'appartiendra aussi. Et puis enfin, voilà, on n'a pas dans la mission de FEV, on n'a pas du tout cette vocation-là. Je pense que c'est chacun son rôle. On voulait absolument pas dupliquer Terre de Liens. C'était pas l'objectif. Terre de Liens fait très bien ce qu'il fait, et nous, on a choisi, voilà, une autre approche. On veut la faire très bien aussi, et les deux approches, je pense, sont très complémentaires.
Oui, et par rapport à ton premier point, justement, on a des personnes qui, à la base, n'étaient pas forcément attirées par la propriété, comme je pense à un agriculteur en Mayenne, et qui, en fait, le fait de pouvoir financer derrière d'autres projets, pour lui, ça pourrait être justement la chose qui le fait basculer et qui rend le rachat intéressant aussi pour lui. Super, on a passé pas mal les questions dans le chat et je voulais revenir à toi, Max, parce que la deuxième thématique de notre webinaire, c'était l'ancrage territorial. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure sur l'aspect avec le lycée agricole. Toi, pour toi, c'était important je sais, toi, tu es membre de l'association des cochons noirs, de réintroduire une race, de faire attention à ton territoire. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette envie-là de s'ancrer dans le territoire?
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Fabien concernant le territoire. Donc, nous, on est en zone méditerranéenne, donc on va être sujet encore plus que les autres et en priorité, on va dire, au réchauffement climatique. Donc, il est évident que la première des choses, les premiers questionnements à avoir, c'est l'eau. Donc, on a la chance sur la propriété d'avoir le canal de Provence, mais c'est pas sûr que demain, le Verdon et la Durance puissent continuer à couler comme ils coulent aujourd'hui. Parce qu'il y aura moins certainement de neige en montagne, donc il y aura forcément moins d'eau dans les torrents. Et donc, c'est la problématique numéro un que l'on va travailler. Donc, ça rejoint l'agroforesterie, c'est-à-dire les arbres, puisque les arbres, eux, font comme la bonne terre qui a été bien chouchoutée et qui n'a pas été massacrée, joue le rôle d'éponge, donc retient le maximum d'humidité. Alors après, quand on arrive l'été, avec des températures de 35 à 40 degrés, là, bien sûr, que l'évaporation s'accélère. Et là, on est confronté à un autre problème, qui est le problème des incendies, qui d'ailleurs aujourd'hui s'étendent en dehors des zones méditerranéennes. Et tout ça fait partie du projet. Alors, le cadre. Alors, le cadre, c'est à la fois écologique, environnemental et à la fois humain. Sur un plan environnemental, si on prend que le Var, département qui a 60% de bois, deuxième département en métropole, hein, puisque le premier département boisé de France, c'est la Guyane. Après, donc, en métropole, c'est les Landes, et toujours je mets le parallèle avec 400 000 habitants, et aujourd'hui le Var. C'est 60% de bois avec 1 million d'habitants, puisque la côte varoise, c'est là où se retrouve le plus de monde. Si on rajoute la région Provence Sud, Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, on a 5 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on a soit Paris intramuros, soit la proche banlieue parisienne à notre portée. Donc, ça veut dire que l'homme étant quand même un prédateur pour la nature. Ça veut dire qu'il faut le recevoir, il faut lui montrer les avantages de la nature et de la conserver. Et de notre côté, il faut aussi lui apporter à manger. Donc on a des atouts qui sont à la fois divergents, donc qu'il faut essayer de faire converger. Donc aujourd'hui, le Var est dépendant alimentaire. C'est la grande, en ce moment, les politiques là, sont en train de nous faire les grandes messes avec la souveraineté alimentaire. Moi, je vais me contenter de parler d'autonomie alimentaire. Le département du Var est dépendant au niveau alimentaire à 95%. Alors, vous imaginez que la loi Egalim et compagnie, c'est tout pour l'instant de la flûte, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc, nous, on a pour objectif de créer une cuisine centrale avec le lycée agricole pour servir 4 500 repas locaux et bio aux enfants des écoles du Haut-Var. C'est-à-dire la région de Brignoles, Saint-Maximin et Provence-Verdon. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier pas. Et donc pour ça, il faut avoir, on va dire qu'on n'aura pas que des véganes demain, je le souhaite d'ailleurs pour la nature et l'environnement. Et donc on aura à la fois des fruits, à la fois des légumes et à la fois de la viande, voilà, avec tout type de viande. Alors après, pourquoi le cochon? D'abord parce qu'au Moyen Âge, il existait, il venait du bois, comme dit Fabien, et en plus, il rendait beaucoup de services. D'abord parce qu'il recycle les déchets alimentaires, et qui sait s'il y en a beaucoup. Et deuxièmement, quand il est dans les bois, ben, il permet de débroussailler, de nettoyer, au même titre que des ovins, hein, d'accord, que ce soit les moutons ou les caprins. Voilà. Et donc, il a un rôle d'accompagnement de l'agroforesterie en zone méditerranéenne. Donc, le fait de débroussailler, ben, on ouvre aussi l'espace boisé, on fait des coupes de feu. Bon, je vous cite un exemple. On a réussi, enfin, elle a réussi à installer une jeune paysanne éleveuse de cochons dans la montagne de l'Étoile, sur la commune d'Allauch, dans une zone rouge au niveau incendie et Natura 2000. Mais pourquoi? Parce que le maire d'Allauch a compris que si demain on ouvrait le bois et qu'on arrêtait de laisser pousser que du pin d'Alep, ben, il risquait d'avoir moins de feu à la portée de son village. Donc ce que je suis en train de dire là et tout le travail qu'on va faire va dans ce sens-là. Donc notre objectif, un des objectifs, c'est de soigner notre environnement. Et ensuite, on pourra en parler si on a le temps, c'est la transformation sur site. Et ensuite, la commercialisation pour toute cette population, puisqu'on a à notre porte à peu près 5 millions d'habitants.
Et si je peux rebondir là-dessus, donc ça montre bien l'enjeu territorial. La Provence, historiquement, a été un territoire, je dirais, rempli de cochons, hein. Il y a eu à une époque jusqu'à 600 000 porcs qui sortaient des élevages. Tout ça, évidemment, vous savez, hein, l'évolution que ça, qu'on a connue en France, hein, les régions se sont spécialisées et puis les porcs se sont retrouvés en Bretagne. Donc déjà, premièrement, voilà, il y a quand même une histoire par rapport à ça. Deuxièmement, quand on a beaucoup d'habitants, on a en général beaucoup de déchets. Malheureusement, c'est comme ça. Une partie de ces déchets sont des déchets organiques et sont en fait pas des déchets, sont des ressources. Et il se trouve que le cochon, quand il a été domestiqué, il a été domestiqué pour ça, pour gérer les déchets organiques des populations humaines. Voilà, donc on peut penser aussi que dans ce projet de territoire, on reconnecte ce qu'on considère comme un déchet et qui devient une ressource finalement pour produire un produit agricole noble qui s'appellerait du cochon et les produits qui vont avec. Pour pouvoir le faire, il faut déconcentrer. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y arrive plus, c'est qu'on a tous les cochons d'un côté, tous les humains de l'autre, etc. Et en fait, il faut plutôt avoir une constellation d'élevage à taille humaine connectée au tissu humain qui est autour. Voilà. Et c'est un petit peu le projet aussi autour de la ferme de la Modeste, c'est d'avoir de la ferme du vivant, du coup, aujourd'hui, c'est d'avoir ce réseau d'éleveurs qui, au sein de l'association Noire de Provence, travaillent ensemble à la création des techniques et justement à la reconnexion de tous ces enjeux.
Oui, on parle souvent de la ferme de la Modeste, mais c'est qu'elle a changé de nom entre-temps.
Non, en
Elle est
fait,
devenue la ferme.
pour que ça soit clair pour les gens qui sont avec nous, la commune c'est Artigues, ok? Le quartier et la bastide c'est La Modeste, et ce nom nous a beaucoup plu déjà au départ quand on s'est porté candidat, parce que nous souhaitons être très humbles et modestes dans tout ce qu'on va faire, ok? Et ensuite, comme on veut travailler sur le vivant et que l'on veut favoriser sur enfin, pas que, sur toute la Méditerranée, bassin méditerranéen, Provence, Garrigue, etc., le vivant, ben on a décidé de se baptiser la ferme du vivant. Alors, au niveau juridique, on a mis dessus des entités juridiques correspondant un peu à tout ce qu'on vient de dire, puisqu'on a globalement trois entités juridiques principales. La première, c'est le domaine d'Artigues. C'est une SAS qui a pour objectif de faire un. Je le répète, si certains d'entre vous veulent participer, bienvenue, pour gérer les activités, toutes les activités du site et rayonner bien sûr aussi autour sur la région. Ensuite, on a la société qui a acheté les terres et le bien qui est la SCI Domaine de la Modeste, comme le nom de la Bastide. Là, c'est dans cette SCI, nous avons fait 60% et 40% des investisseurs en direct. Et à l'intérieur de cette SCI, de cette propriété, nous avons une ferme qui anime le côté purement agricole, avec aujourd'hui un support, on va dire, principal qui est l'élevage du cochon pleine nature agroforestier bio, okay, qui s'appelle la ferme du vivant. Et comme la ferme du vivant, on ne veut surtout pas qu'il y ait de la monoculture ou du monoélevage, on l'ouvre sur d'autres activités agricoles. Voilà. J'espère que j'ai été clair.
Ouais.
Très clair.
On fera un schéma.
très clair. Si jamais vous voulez reprendre toutes ces informations, elles sont aussi sur le site, sur la page de présentation qui résume un petit peu toutes les activités de la ferme qui sont maintenant et dans le futur. Justement, il y avait quelqu'un au tout début qui avait demandé est-ce qu'on peut visiter le site si on n'est pas loin ou si on passe en vacances?
Alors, je vais en parler puisque c'est un des objectifs du site. Un des objectifs du site, c'est de rapprocher la population urbaine avec la population rurale. Et pourquoi pas demain faire naître des vocations pour la ruralité. Okay? Je pense que c'est hyper important pour l'avenir de nos générations à venir. Je pense que si demain on décongestionne la région parisienne et certaines, on va dire, métropoles françaises, même si on n'est pas en Asie du Sud-Est, ça fera du bien, okay? Donc ça fait aussi un aménagement du territoire et ça crée de la vie. Et donc si ça crée de la vie, ça peut créer aussi des activités économiques. Voilà, donc ben, c'est un des objectifs du site, à savoir que nous avons pour objectif d'abord l'agroécologie, l'agroforesterie, polyculture élevage. Deuxièmement, rénover la Bastide pour faire habiter les paysans et faire quelques chambres d'hôtes. Et des gîtes pour recevoir. On veut faire, si monsieur le maire a dit qu'il nous aiderait, nous accompagnerait, on voudrait faire de l'habitat de plein air pour, durant l'année, on va dire, scolaire, septembre, octobre jusqu'à mai, recevoir des stagiaires. Okay? Ensuite, ben, quand arrive l'été, tout ça, ça peut basculer en agrotourisme. Et c'est là qu'on recevra très volontiers les touristes de l'Europe du Nord, on va dire, ou autres, pour les recevoir à la ferme du vivant. Et déconnecter de la Bastide, à côté de l'entrée, c'est-à-dire en bordure d'accès de route, on a le projet de construire un bâtiment éco-construit de 1600 mètres carrés en ossature bois, avec photovoltaïque, phytoépuration. Dans lequel on va être, ce bâtiment sera consacré sur 1600 mètres carrés, 600 mètres carrés à l'agricole. C'est-à-dire ce que un peu disait Fabien tout à l'heure, si demain on peut recycler de l'aliment, si on va recréer on va faire de la déshydratation de drêche de bière, on va faire de la déshydratation de luzerne, pourquoi pas on va regarder ça, des grignons d'olivier, etc., etc. Donc pour valoriser les sous-produits de l'agriculture et les déchets alimentaires, ok? Et sur les 1000 mètres carrés qui restent, donc il y aura un atelier de découpe et bientraitance animale. On est en train de développer un projet d'abattage à la ferme, ok? Donc des animaux, ça sera d'abord des cochons, mais ça peut être aussi des canards dont je parlais tout à l'heure. Donc découpe de viande. Expédition, circuit court, vente sur Internet à partir de plateformes au départ d'Artigues. Okay? Et ensuite, transformation, valeur ajoutée pour le produit qui va servir les filières, et en l'occurrence la filière cochon noir, à savoir salaison. Pour ceux qui apprécient et qui connaissent, on va fabriquer le jambon sec d'Artigues, affiné 18-24 mois. En espérant que la Provence ait demain son jambon sec, comme les Italiens ou les Espagnols ou les gens du Sud-Ouest. Et nous allons avoir donc des produits plus méditerranéens, tels que Copa, Lonzo, voilà, pour faire apprécier les produits du terroir. Et en bout de fabrication, une ferme auberge. Cette ferme auberge, l'objectif, c'est d'être un caveau, comme un caveau pour le vin, mais là pour les produits locaux issus de l'agriculture biologique et bien sûr les produits de notre ferme. Ça veut dire que on essaiera de passer un maximum de fruits et de légumes produits sur place, les œufs et bien sûr toute la viande qui va être fabriquée. Quel est l'objectif de cette ferme auberge? Eh ben, Marseille, 1 million d'habitants, Aix-en-Provence avec la banlieue 300 000 400 000, Toulon, pareil, 1 million. C'est-à-dire 2 à 3 millions d'habitants qui pourront venir le week-end à la ferme auberge, à 45 à 1 heure et quart à peu près de distance en voiture. Si c'est en vélo, ce sera un peu plus compliqué, un peu plus long. Donc, pour venir apprécier les produits de la ferme, passer un bon moment de convivialité avec leur famille, leurs enfants, visite bien sûr de la ferme avec toutes les productions, l'agroforesterie, etc., les animaux, pétanque pour ceux qui peuvent pas s'en passer quand arrivent les beaux jours, et on repart avec sous le coude des produits de la ferme qu'on a dégustés à la ferme auberge. Et quand on est chez soi, qu'on a envie de commander ces bons produits, eh bien, Chronofresh, pour ne pas les nommer, pourra vous expédier les produits. L'objectif, c'est quoi? Circuit ultra court. On enlève l'agro-industrie qui pollue et qui a fait de nos animaux des produits et non plus des êtres vivants. Okay? Donc, on est des fervents opposés à l'élevage industriel. Okay? Et ensuite, deuxièmement, ils pourront tous apprécier les produits du terroir qu'ils auront vus lors de leur passage à Arty. Donc, et oui, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, j'ai perdu le fil. C'est bien sûr suppression de la distribution et surtout de la grande distribution. Et la marge, elle va où? Elle va chez les producteurs. Objectif, ne pas travailler 70 heures, puisqu'on va déléguer via, ce sera des mini-coopératives. Sous forme d'atelier de transformation. Donc, on transfère la marge sur le paysan éleveur directement. Aussi bien la marge, une partie de la marge de transformation que bien sûr la marge de distribution. Voilà le programme. Donc, investissement. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit message à ce sujet-là. Des investissements encore, oui, beaucoup. On va essayer de monter des supports et des véhicules financiers. On a besoin de 2,5 millions d'euros. Alors, 2,5 millions d'euros, je vais vous donner la répartition. Pour mettre la Bastide aux normes d'habitat et locatif, c'est 500 000 euros. C'est un budget même serré, okay? Parce qu'il y a quand même 500 mètres carrés à remettre aux normes, même si on ne va pas tout refaire, bien sûr. Le bâtiment photovoltaïque, en tenant compte. On va être autonome également. Hein. Pendant 30 ans, on a un contrat donc d'approvisionnement en électricité. C'est 700 000 euros à peu près. Et ensuite, à l'intérieur de ce bâtiment, on fait, on va dire, des boîtes à chaussures isolées, panneaux isothermes et matériel pour la transformation, etc. C'est encore 1,3 million euros avec ferme auberge comprise. Donc, au total, ça fait 500 000 pour la Bastide et 2 millions de l'autre côté. Ça fait 2,5 millions. Donc, on n'a pas fini d'investir en espérant qu'au final, les consommateurs nous feront confiance.
En tout cas, moi, tu m'as convaincu, c'est bon, je viens passer plusieurs jours dans la Bastide, c'est bon, je suis convaincue. Non, mais je pense que voilà, comme tu dis, le financier, ça ne s'arrête pas qu'au foncier. Après, il faut penser le projet au global et sur le long terme. Et donc, il vous reste encore pas mal de choses à financer et à mettre en place. Et il y a besoin aussi de ressources humaines. Donc, si dans l'Assemblée, il y a des gens qui sont dans la région et qui ont envie aussi de donner des coups de main, mais qui n'hésitent pas à te contacter, je pense que. Il y en aura peut-être qui sauront donner de leur temps ou quelques euros aussi pour financer ce beau projet, quoi. Vas-y.
Je voudrais juste dire quelque chose d'important. On n'est pas en train de travailler contre la distribution, surtout, bon, bien sûr, les réseaux de produits bio, hein, de Biocoop et compagnie. Okay? On n'est pas en train de travailler également contre l'agro-industrie. Non, on est en train de se dire que demain, il y a une transition qu'il va falloir assumer, okay? Indispensable. Et donc, il faut que vous sachiez, tout le monde, que nous avons trois entreprises, enfin, donc deux entreprises de l'agro-industrie qui nous accompagnent dans notre projet, okay? Et on va, j'espère aussi, les faire évoluer. Et on a une société de services qui travaille en certification, donc, entre autres certification bio, qui également nous accompagne dans le projet. Voilà. Donc, on fait appel à des entreprises privées qui croient, on va dire, au changement qu'on essaye de mettre en place. Voilà. J'étais un peu perturbé par le téléphone qui sonnait.
Pas de problème. Je pense qu'on va pas tarder à libérer les gens puisqu'on a fait une bonne pause-déj pour tout le monde. Juste, il y avait peut-être une dernière question de Thomas qui demandait pour Fèves en 3 ans d'existence, quels sont en général les types d'exploitation qui ont été accompagnés bah, en termes de culture, élevage, maraîchage, etc., écotourisme.
Le modèle entre guillemets préféré, c'est polyculture élevage, hein. C'est exactement le modèle de la ferme de la Modeste, donc avec à la fois de la culture et des animaux. C'est extrêmement complémentaire d'un point de vue agronomique. Après, on a aussi des fermes qui sont spécialisées en grande culture, d'autres qui sont uniquement en élevage. La seule chose qu'on ne fasse pas, c'est de la vigne aujourd'hui. Sinon, on a même des vergers. Enfin voilà, on a des fermes assez diversifiées.
Et
Et
en tout
si
cas,
je peux me permettre, Simon, je pense pas que vous ayez envie de faire de la vigne.
pas vraiment. Bon, déjà, il y a des foncières qui le font. C'est compliqué. La transition agroécologique sur la vigne va être compliquée. Et puis, c'est peut-être pas la culture la plus indispensable pour
Pour nourrir la planète.
exactement.
Oui, parce que du coup, pour
C'est
rappel, chez
subjectif, hein.
FEV, tu l'avais peut-être, tu l'avais dit au départ, mais enfin, les projets qui sont financés ont une vocation à la base nourricière.
Nourricière, ouais.
Mais si vous avez un projet à faire financer, n'hésitez pas à aller sur le site parce que du coup, vous retrouverez les critères de financement. Et si vous avez trouvé votre ferme, on peut la financer. Et si vous cherchez une ferme, il y a la plateforme Lagrange aussi où il y a pas mal d'appels à projets. Thomas dit, me dites pas ça, je suis bourguignon, vous allez nous en fâcher quelques-uns au milieu. On aimerait bien financer la vigne, mais c'est vrai que. Enfin, moi, j'aimerais bien.
Moi, je voudrais remercier, parce que je pense qu'on ne va pas tous le faire, mais
Oui.
je voudrais vraiment remercier les gens qui sont venus nous rejoindre. Ils ont peut-être sauté le repas d'ailleurs, donc ils mangent un sandwich en même temps. Et pour l'écoute, et ça, nous, ça nous encourage à continuer dans la voie qu'on a choisie avec la ferme du vivant, parce que ça montre que c'est par la société qu'on va faire bouger les lignes. Et par les éco-citoyennes, dont certainement la plupart qui nous ont écoutés en font partie. Et merci, merci beaucoup, et continuez à aider. Et il y a plein de façons d'aider, hein, sur des projets que nous essayons de mettre en place. Merci beaucoup.
Ben merci Max pour ce mot de la fin. Et puis comme ça, on va libérer tout le monde si certains n'ont pas fini leur sandwich. Et puis merci pour
Ouais,
ce
un grand merci à
partage.
tous. Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, vous allez recevoir le replay dans les prochains jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je les ferai passer à nos intervenants du jour. Voilà, très bonne journée.
Merci Colline, merci à tous.
Merci.
Au revoir.
Merci, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.